I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflue, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons, alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr. Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast qui est désormais intégrée à La Relève, l'agence food cofondée par Margot Decatoir et moi-même en 2020. La Relève, c'est à la fois une agence d'influence food incluant le management de talents et une agence créative qui imagine des projets culinaires, des partenariats, des expériences pour des marques, des lieux ou des événements. Quant à À Poil, il met à nu des chefs, des talents fous marquants de différents univers, managés en interne ou des coups de cœur. Des personnalités qui forment, en tout cas, ce que nous pensons être une certaine relève food au-delà de l'agence. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Antonin Girard.
En fait, c'est un métier qui peut être, en tout cas dans l'imaginaire, isolant et qui est très contraignant. Et t'es un peu solo dans ta cuisine, dans ta cave. Et nous, on est complètement revenu de ça et on essaie de rendre de transformer les contraintes en avantage entre guillemets. En fait, c'est tellement plus cool de cuisiner dans une cuisine ouverte où les clients ils sont en face de toi, de pouvoir leur servir puisque pour la partie, tu vois, du comptoir en cuisine, on sert les gens directement de main à main. Les clients arrivent, ils nous posent des questions, à nous les cuisiniers, tu vois, il y a une énergie qui est vraiment très différente. Et puis à côté t'as les scuds qui tournent sur les platines, donc en plus tu bosses en musique. Il y a vraiment ce truc de promiscuité qui crée l'enjaille, qui moi me fait vibrer et puis qui est un peu notre leitmotiv et tout avec nos associés quoi.
Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Antonin Girard. Antonin n'est pas un chef comme les autres, puisqu'il œuvre à mixer de façon indissociable food et musique. C'est ainsi qu'il a imaginé, en 2016, après avoir aiguisé ses couteaux en Australie ou au Japon, le premier label musique et food répondant au petit nom d'Animal Records & Kitchen, avant de poursuivre avec l'ouverture, en pleine pandémie mondiale, du comptoir culinaire et musical Panto Baguette. Antonin et sa bande sont également derrière le festival La Douve Blanche où ils invitent artistes et chefs à la programmation, histoire d'explorer toujours plus les liens entre ces deux univers qui les passionnent. Avec Antonin, nous avons parlé de takoyaki, de l'opéra de Sydney et de vision globale. Bonne écoute! Bonjour Antonin.
Salut.
Producteur de musique et chef de cuisine, quelle est ta casquette préférée?
Alors ma casquette préférée, ça serait producteur de musique, mais la casquette que je porte vraiment, c'est plutôt chef de cuisine.
Comment arrives-tu à mixer ces deux passions?
Assez mal, mais j'ai réussi à trouver des compromis en m'entourant de copains, d'amis et puis d'associés qui sont tous très talentueux et qui soit produisent de la musique, des festivals, mix. Et donc moi je suis plus là comme un accompagnateur quoi, à l'arrière du bus, les bras en l'air, à les soutenir comme eux peuvent me soutenir dans ma cuisine. Et c'est un peu ce compromis là. Je suis pas particulièrement DJ, je suis très audiophile, mélomane. J'ai une grosse collection de vinyles qu'on peut retrouver au restaurant, mais je suis ni DJ ni musicien. Je suis plutôt le gars à côté des platines qui encourage et aide plutôt à la production entre guillemets que producteur à part entière, quoi.
T'as quand même ouvert un resto avec des platines auxquelles tu faisais référence et t'as toute ta collection de vignes. Donc tu mixes les deux quand même dans ton restaurant, dans ton établissement.
Absolument. Bah alors c'est pas que ma collection, mais il y en a quand même une grosse partie à moi. Et puis on peut être mélomane sans être musicien. L'idée de l'association qu'on a montée avec mes assos il y a quelques années, c'était du coup effectivement musique et cuisine.
Animal Records et Kitchen.
Animal Records and Kitchen, voilà. Qu'on a monté il y a un peu plus de 8 ans, 2015-2016. Et effectivement, c'était l'idée de lier ces deux corps de métier, ces deux arts qu'on apprécie. Moi, je venais du coup plutôt du milieu de la cuisine. J'avais fait Ferrandi après mon bac. Ça fait quelques années déjà que je cuisinais en restaurant. Et mes super potes d'enfance, eux étaient plutôt dans le milieu du son, ingénieurs du son, ils avaient des bandes, ils avaient un studio, ils commençaient à sortir des sons, à produire et à vouloir faire des concerts un peu plus pro que les teufs dans les caves qu'on faisait entre copains à 16 ans, quoi. Et donc voilà, on s'est dit, on avait très envie de monter un label de musique, donc ça c'était un rêve que j'avais moi aussi, même si j'y comprenais pas grand chose en vrai à l'époque. Mais on avait un peu cet héros là pour moi j'avais de l'énergie à l'époque encore et du temps à revendre aussi pour ça et je pense une bonne appréhension en tout cas de ce qu'était la musique actuelle à l'époque et je dis à l'époque ça fait hyper vieux déjà mais c'était quand même il y a 8 ans donc et du coup on s'est dit bah voilà on va essayer d'allier ces deux médiums et d'organiser des choses, des événements, des pop-up, un festival où on pourra programmer des musiciens mais aussi des cuisiniers et donc allier la bouffe, la musique, le live, c'était un peu la dominante de cette idée, dire que la cuisine c'est vraiment un métier aussi de live, de spectacle, de scène entre guillemets, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait aussi ici du coup quand tu dis les platines derrière bah voilà c'est un grand comptoir avec on enfilade la cuisine, les platines. Et donc, voilà, quand j'ai le temps, je passe 2-3 scuds, mais sinon, c'est les copains ou Thomas, qui est derrière le bar, mon associé aussi.
Pas de playlist prédéfinie, alors
Non, ça dépend vraiment des soirs, des moods. Après, comme on est des diggers, on se crée des playlists aussi, beaucoup, parce qu'on n'a pas tout le temps le temps de faire du live. Enfin, en tout cas, au restaurant. Il y a des moments où il faut juste qu'on serve du vin et qu'on
c'est derrière les casseroles.
Qu'on cuise des brochettes mais non il y a pas de playlist prédéfinie franchement c'est très variable.
Donc avec Animal Records et Kitchen vous avez commencé au point éphémère en partie.
Alors ça a été effectivement le premier lieu qu'on a exploité en tout cas la partie restauration et aussi ça a été un tremplin parce que c'était un lieu qui abritait et d'ailleurs abrite toujours je pense pas mal de groupes et de labels en studio, en résidence et sur scène. Donc il y avait un peu tout le terreau pour que nous on puisse s'épanouir et puis ils avaient une cuisine qui était à l'abandon, un peu en friche. Et donc voilà, l'idée nous c'était qu'on récupérait les cuisines, on venait redorer un peu le blason de cet endroit qui est assez cool sur la scène indé musicale parisienne en offrant une offre culinaire qui se faisait pas trop hein, dans ces lieux-là quand même. C'était un peu le début quoi, il y avait beaucoup de burgers et des trucs très street food de base dans les salles de concert, mais sinon globalement on mangeait pas bien quand on allait voir un concert à Paris. Et donc nous on était voilà sur ce créneau-là de faire des bons tapas, des choses cuisinées minutes dans un endroit qui était très street et où les gens venaient voir des concerts et boire de la bière pas fraîche quoi. Donc on a commencé là-bas ouais.
Et la Douve Blanche, c'est pareil, c'est votre festival.
Ça s'est construit la même année.
C'était la même année. Et vous avez tout de suite intégré la dimension cuisine aussi, qui était délaissée complètement des festivals à cette période.
Donc effectivement, on a lancé le festival aussi sur cette même période. Clairement, la dynamique était la même, c'est-à-dire live and food, quoi. On voulait vraiment tout de suite donner un axe à ce festival culinaire et pas seulement musical étant persuadé que ça amènerait vraiment une plus-value et puis surtout parce que c'était notre ADN que en fait on avait déjà organisé pas mal de petites teufs dans cet endroit magnifique qu'est le château d'Aigreville donc ça s'était développé petit à petit jusqu'au point où on s'est dit bon là c'est plus une teuf quoi il faut en faire quelque chose de sérieux et donc on a monté le festival à ce moment-là. Mais clairement, ça a commencé en douceur. La première année, c'était 400 festivaliers. De mémoire, j'avais peut-être une ou deux inductions. on était trois copains à cuisiner des burgers qui étaient méga bons. C'est sans doute les meilleurs burgers qu'on puisse manger en festival, mais c'était une offre assez restreinte. Il n'y avait pas encore les festins des chefs, évidemment. Voilà, on avait une seule tente qui faisait le bar, la cuisine, une scène. Enfin, mais en tout cas, il y avait déjà toute une bande de potes, puisque c'est un peu ça aussi, la force du festival, qui venait nous aider à cuisiner. Et à cuisiner des bonnes choses, quoi. C'est-à-dire que dès le début, on a fait le choix de pas inviter de food truck, de gens extérieurs sur la partie culinaire, quoi.
Et de tout produire, en interne.
Ouais.
Avant ça, toi, t'as une formation, t'as une vraie formation de cuisinier. T'as été formé tout jeune à l'école Ferrandi. On a fait un petit calcul en cherchant des infos sur Internet. On est arrivé à peu près 15 ans.
De cuisine, tu veux dire?
T'as commencé à cuisiner vers 15 ans?
Pas du tout.
Ah non? Ah, ouais, alors on a foiré nos calculs.
Mauvaise que moi en maths, ça me fait plaisir. ou alors je serais plus vieux que l'histoire le dit. Mais non, j'ai passé mon bac tardivement, enfin à 19 ans, avec un an de retard sur la moyenne nationale, j'imagine. Et du coup, après mon bac général, j'ai postulé à Ferrandi, où à l'époque on entrait sur concours, et j'ai été pris directement à l'école supérieure dans laquelle j'ai fait 3 ans, donc la première année d'adaptation où tu fais un CAP accéléré, puis après à l'époque les 2 années d'école supérieure, ça s'appelait comme ça, école supérieure de cuisine française, le SCF. Ce qui m'a donné envie de cuisiner. Ouais. En tout cas, le pari à l'époque était pas du tout gagné. Je savais que j'avais envie de faire un truc de mes mains, mais j'avais pas du tout vocation à être cuisinier ou à faire de la cuisine. Pas trop de cuisiniers dans mon entourage, si ce n'est une belle-mère à l'époque qui était photographe culinaire et donc qui avait une vraie appétence pour la belle et la bonne bouffe, et qui elle m'a un peu aiguillé en me disant bah écoute, tu devrais postuler à Ferrandi et puis essayer de faire de la cuisine, voir si ça te plaît. Et c'est vrai que ça s'est fait progressivement. Au début, je pense que je comprenais pas vraiment ce que je faisais. Mais
tu connaissais ce milieu des chefs, hein? Il y avait des chefs que t'aimais bien, des restos.
J'avais zéro expérience. J'allais pas particulièrement au restaurant. Moi, qui fais de la cuisine plutôt fusion japonaise, maintenant que depuis des années, je pense que j'avais pas mangé ne serait-ce qu'un sushi dans un mauvais shop, quoi. Donc, c'était la découverte totale. Mais la chance, c'est que j'ai découvert ça par le bon côté des choses, entre guillemets. Je me suis retrouvé dans une promotion avec des gens justement hyper intéressés et déjà hyper sûrs de ce qu'ils voulaient faire, avec souvent plus d'ancienneté que moi. C'est des gens justement qui avaient pour le coup pas mal fait d'études ou travaillé avant, qui avaient 5, 6, 7, 8 ans de plus que moi. Et donc qui étaient tous très passionnés et qui m'ont un peu emmené un peu là-dedans, ouais. Quoi. Mais bon, à Ferrandi, j'étais le vilain petit canard. Enfin, j'ai mis un peu de temps à comprendre vraiment ce que je faisais là, quoi.
Et qu'est-ce qui t'a...
Qu'est-ce qui m'a passionné, je te dis, de voir les gens, de voir les chefs, puisqu'on avait la chance de recevoir des super chefs. Je me souviens de Grébeau à l'époque, qui était tout jeune, qui lui sortait de Ferrandi aussi quelques années en amont, qui revenait nous faire une démo, qui était déjà chef. À l'époque d'un restaurant qui s'appelait Agapé, je crois, de mémoire. Voilà, quand on voyait des démos de la cuisine, des plats assez incroyables, et puis bon, il y avait tout un effort de créativité, de création de recettes, etc., où moi je découvrais un peu le béaba de la cuisine. Mais en face, quand on se retrouvait donc en réunion toutes les semaines avec la brigade, je voyais des trucs qui sortaient des autres élèves, de mes camarades de classe, assez fous. Et donc petit à petit, je me suis dit waouh, c'est un monde. Et ça a mis quand même quelques années. Évidemment, j'ai pris goût pendant l'école, mais c'est surtout après au contact, je pense, de la cuisine et quand j'ai commencé à manger dans des restaurants. En fait, je suis arrivé à Paris en même temps que j'ai commencé Ferrandi. Et ça a été un peu une découverte, quoi, le milieu de la restauration, les restaurants, tout ça. J'avais pas du tout pratiqué ça avant, quoi.
T'as grandi où ?
J'ai grandi en Seine-et-Marne, à Avon, donc dans le sud de la Seine-et-Marne, dans la forêt de Fontainebleau, dans une petite ville. C'est pas tellement qu'il n'y avait pas de restaurant, ouais, parce qu'il y en avait, mais c'est juste que c'était pas vraiment la culture. On mangeait beaucoup à la maison, ou si on allait faire un restaurant, on se faisait, je sais pas, une pizzeria ou un petit bistrot de bled.
Ouais, mais t'avais pas la scène culinaire.
En tout cas, moi, j'avais pas. J'ai toujours adoré bouffer. Bon, ça, c'était un fait. Donc, déjà, il y a il y avait quand même l'appétence qui était là. Mais de là, enfin, je me projetais pas du tout dans des études et encore moins dans une carrière de cuisinier, quoi.
Du coup, tu sors de Ferrandi et là, tu dis que tu vas voyager.
Bah, ça se passe pas exactement dans cet ordre-là, mais en fait, toujours grâce à Ferrandi, qui était quand même une école incroyable à l'époque. J'imagine que ça l'est toujours, mais en tout cas, les formations étaient vraiment assez select, quoi, je trouve. On avait des stages 6 mois dans l'année en fait sur les 2 dernières années et la dernière année on avait l'opportunité de faire des stages à l'étranger et doté d'un quand même gros réseau international et de chefs implantés un peu partout. Il y avait notamment une piste en Australie et à l'époque mon pote Martin, pote de promo, qui lui était beaucoup plus affûté que moi, qui avait déjà pareil beaucoup voyagé, qui lui comprenait très bien ce que c'était que la bonne bouffe, les petites tables, avait vu l'opportunité et m'avait dit écoute, tu fais ce que tu veux mais il y a 2 places pour l'Australie, j'ai pris la première et t'en fais ce que tu veux. J'ai dit un peu oui, mais pareil, sans trop comprendre la chance que c'était, ni l'expérience que je m'apprêtais à vivre. Et donc on est partis en stage tous les deux, un peu main dans la main,
chez Tetsuya,
en Australie. Originellement, on devait bosser pour Tony Bilson, qui est vraiment une entité, un chef absolument incroyable. On avait été en plus mis en relation via des potes de potes avec ce cher monsieur. Et en fait, le hasard des choses a fait que bon bah lui, il accueillait des stagiaires, notamment de Ferrandi, qui venaient de France, etc. Mais le moment où on est arrivé, il venait de fermer son restaurant pour des travaux et tout. Donc je pense qu'il n'avait pas calqué son agenda sur les 2 pauvres stagiaires qui arrivaient de Paname. Et du coup, il était un peu désolé, mais il pouvait plus nous accueillir. Je pense qu'il avait un peu oublié de nous prévenir, mais il est quand même arrivé à l'aéroport, nous récupérer. On s'y attendait pas du tout avec sa bagnole personnelle. Et il nous a fait faire un tour de ciné au petit matin, alors que nous on était complètement jetlagués. Moi je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Il nous a montré toute la ville. On a pris un petit déjeuner à Bondy, au bord de l'eau. Et puis il nous a droppé dans un hôtel. Il nous a dit reposez-vous. Et puis demain je vais vous présenter à mes copains et vous trouver des stages, quoi. En gros, quoi. Et le lendemain, il nous a présenté à Tetsuya Wakuda. Qui est toujours le chef du restaurant éponyme Tetsuya, et aussi à Guillaume Guillaume Benelon, qui était le chef de l'opéra de Sydney à l'époque, qui était l'équivalent d'un bon gastro assez classe en France. Et donc j'ai commencé là-bas à l'opéra de ciné. En fait, fallait se répartir avec mon pote Martin. Donc lui, justement, très affûté, il savait très bien. Il a dit OK, le chef japonais, c'est difficile pour moi. Moi, je te dis, à l'époque, je pouvais pas manger de sushi, donc ça me parlait pas particulièrement. L'opéra de ciné, ça avait l'air cool. J'ai commencé là-bas, et puis en discutant, puisqu'on vivait ensemble avec mon pote de promo Martin, en discutant un peu tous les soirs de nos XP. Je me suis très vite rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup plus à voir et à découvrir dans cette institution qui était Tetsuya Wakuda, sachant que à Benelong, donc à l'opéra, en fait, le chef avait comme une grosse inspiration du Ducasse. Il était issu d'un peu de la cuisine française. Enfin, il avait fait des études en France culinaire. Donc voilà, il y avait beaucoup de redondance avec ce que j'avais pu voir dans mes premiers stages justement en France. Et donc très vite. J'ai demandé à switcher, à passer chez Tetsuya, chose que gentiment Guillaume a accepté, comprenant que la cuisine française je connaissais déjà, entre guillemets. Et donc voilà, on s'est retrouvés tous les deux là-bas.
Un resto japonais.
Dans un restaurant, ouais.
Alors, il fait du japonais moderne, ou il fait.
Déjà, puisqu'on était sur un 13 étapes assez incroyable en dégustation, avec un accord saké, vin, avec des vins de ouf, un service incroyable. C'est une maison japonaise en plein milieu du CBD de Sydney, donc une expérience vraiment à part entière. Donc là, énorme claque. Là, ouais. Je découvre ce que c'est que la gastronomie, et pas au sens justement classique de ce que j'avais pu découvrir un peu sur les premières années de l'école, c'est-à-dire un relais château dans les Landes où on cuisine du pigeon,
du foie gras,
de la doure et du foie gras. Chose que j'adore, mais voilà, c'est vraiment le dépaysement, quoi, avec cette rencontre avec Tetsuya.
Et pareil, voilà, je pense qu'on a été vraiment hyper chanceux, mais hyper bien accueillis par ce chef, par toutes ses équipes, qui nous a vraiment pris sous son aile et qui nous a donné l'occasion de s'épanouir dans sa boîte et nous a proposé de nous embaucher à la fin de notre stage.
Trop bien.
Donc on devait rentrer en France pour rendre notre mémoire et puis clôturer notre formation à Ferrandi. Et en fait, on est resté là-bas avec mon pote et on a continué à bosser pendant un petit paquet de temps.
Donc combien de temps en tout?
Je crois qu'on a prolongé. Alors lui, Martin, a dû faire quasiment un an et moi j'ai dû faire 8 mois à peu près chez Tetsuya, quoi.
Et là, t'as attrapé le virus de la cuisine japonaise.
Ouais. Enfin, c'était vraiment frappant comme expérience parce que 90% des produits, je les connaissais pas. Et c'est même pas que je les avais pas goûtés, c'est que c'était weird. Enfin, beaucoup de travail sur les algues, les concombres de mer, les poissons. Les poissons, j'en avais vu quelques-uns déjà en France, mais c'est quand même aussi d'autres poissons, puisque dans le Pacifique, il y a quand même aussi pas mal d'espèces un peu différentes. Et puis surtout d'autres façons de les travailler, assez folles.
Les assaisonnements aussi.
Les assaisonnements, évidemment, tous les condiments, les sauces, des choses qui, moi, m'ont beaucoup imprégné et que je réutilise beaucoup aussi. Une façon de faire, une énergie d'équipe... des process où sur le dégustation les brigades sont réparties par recettes où il y avait un vrai challenge parce que énormément de nationalités dans l'équipe et donc au staff meal chacun produisait un plat et on se faisait des grands gueuletons avec une trentaine de plats différents pendant les staffs
sympa.
vraiment j'en ai pris plein les mirettes quoi pendant 8 mois Et donc je suis revenu avec ça en France quoi et ça m'est resté depuis
Après t'es parti au Japon aussi
Ouais alors plus tard en fait beaucoup plus tard dans ma toute petite carrière mais donc je suis revenu d'Australie et de cette expérience avec un chef japonais j'avais 21 ans un peu plus, ouais c'était plus ou moins ça et en fait je suis allé au Japon pour mes 30 ans donc quasiment 8 ans plus tard. Mais c'est vrai qu'en revenant, j'ai tout de suite, avec ce même Martin, big up à lui d'ailleurs, mais ouvert une première table qui s'appelait le Diable Vert à l'époque, Passage Panorama, dans lequel il était chef et je le secondais. Donc on sortait tout juste de l'école, hein. Pareil, je pense qu'on savait pas bien ce qu'on faisait, mais on a toujours été un peu au feeling, en mode on y va et puis on verra ce qui se passe, quoi. Et voilà, moi je me suis rassuré avec ce que je connaissais quoi. Et ce que je connaissais, bah justement, c'était tous ces petits condiments, ces petites sauces un peu japonaises. Lui adorait le poisson, il avait une technique et un skill absolument incroyable pour lever, fileter les poissons, les trancher. Et il adorait ça, donc on passait littéralement nos journées à recevoir des beaux poissons et à travailler. Et donc voilà, moi je me rassurais avec mes furikake, avec mes petites sauces soja un peu sourcées, avec du miso. Donc ça a commencé un peu comme ça et puis j'ai travaillé ça petit à petit, j'ai découvert des fournisseurs japonais à Paris, j'ai découvert des restaurants japonais à Paris mais au sens gastronomique, donc je suis allé chez Sola à l'époque, je me souviens en rentrant d'Australie où là je me suis dit ah, ok en fait ça existe aussi à Paris, ça existe aussi en France, cette vibe là de cuisine très léchée qui est pas dans la cuisine traditionnelle japonaise, incroyable au demeurant mais c'est à dire autre chose que des ramen...
un peu menu kaizeki. C'est menu kaizeki un peu.
Comment?
Menu kaizeki.
Ouais, voilà. Bah, en tout cas, sur de la fusion, c'est-à-dire du beau travail du produit, mais dans l'assiette, avec aussi des techniques françaises, des produits français aussi, du coup. Et plus tard, quasiment 8 ans plus tard, j'avais déjà beaucoup trop parlé du Japon, je pense, pour mon entourage, qui m'a offert un super voyage pour mes 30 ans. Ma famille, mes amis au Japon. Et là, je suis parti vraiment pour un voyage culinaire qui a été court, mais intense, quoi.
Tu mangeais 4 fois par jour?
Ouais, c'était 4 à 5 fois par jour, littéralement. Je m'étais prévu un budget conséquent. Et clairement, du matin jusqu'au soir, je bouffais. L'avantage, c'est qu'il y a vraiment une variété incroyable de styles de cuisine différentes. Et donc tu peux passer du street food à un petit bar à tapas, les izakaya, à un gourmet où voilà, le chef sushi te sort un sushi toutes les 20 minutes et c'est une expérience à part entière.
T'as découvert des choses, t'es pris des claques.
J'ai découvert énormément de choses. J'ai découvert, alors pour ne citer qu'un truc un peu emblématique mais avec lequel je suis revenu ici donc pendant ce voyage au Japon, que je connaissais pas du tout avant, j'en avais pas entendu parler. C'est les takoyaki qu'on fait ici à Porto Baguette, qui sont une recette typique d'Osaka, du street food. Donc j'ai découvert dans la rue à Osaka.
C'est le poulpe, des boulettes de poulpe.
Ouais, c'est des boulettes
peu,
de pâte à crêpes. Enfin, takoyaki littéralement ça veut dire œuf et poulpe. Et donc voilà, c'est des boulettes de pâte, une sorte de pâte à crêpes salée avec du poulpe grillé dedans. C'est cuit dans une poêle en fonte un peu particulière.
Avec des trous.
Et donc ça fait des petites boulettes un peu crispées à l'extérieur, moelleuses, avec des morceaux de poulpe à l'intérieur et toute une petite garniture sympa par-dessus, une sauce okonomi, du katsuobushi, de la ciboule, de la coriandre, une mayonnaise blanche, enfin une mayonnaise japonaise un peu vinaigrée au mirin, au vinaigre de riz. Ouais, j'ai pris une énorme claque avec ce truc-là. Je l'ai ramené, j'ai commencé à le cuisiner aussi en me disant putain, c'est vraiment trop cool ce truc-là. Et ça se voit pas trop à Paris.
Et c'est devenu un plat signature aujourd'hui.
Ouais, clairement.
Bah, le Japon, de façon générale, aujourd'hui, ça continue à guider, enfin, cette formation que t'as eue et puis ce voyage que t'as fait et tous ces produits, ces condiments, ça continue à guider ta carte et ta cuisine.
À fond. Après, il y a cet axe-là qui est peut-être un axe majeur, on va dire, la cuisine japonaise. Mais j'essaye de pas être dans l'appropriation culturelle et je me revendique pas du tout, tu vois, cuisine jap ou chef japonais. Et pêle-mêle, tu peux retrouver, bah là, tu vois, il y a un tendre de bœuf, il y a une grosse pièce à rôtir qu'on est en train de faire, qu'on va cuisiner au za'atar. Il peut y avoir du boudin noir du Pays Basque, beaucoup de produits du Pays Basque aussi finalement, parce que j'aime bien énormément de produits aussi italiens, de crêperies, des strates, enfin tu vois, genre en vrai j'essaie de pas du tout de mettre de barrière ou de me dire bah si c'est le Japon c'est le Japon, ou si c'est l'Italie c'est l'Italie. Il y a une ribambelle de produits techniques que j'apprécie et puis un peu au feeling j'assemble les trucs. Avec toujours cette petite trame narrative un peu japonisante que moi j'apprécie énormément et que je me suis approprié, mais voilà, ça reste quand même très éclectique.
Qu'est-ce qui t'inspire dans ta cuisine, enfin je veux dire, quand tu cuisines ce que t'aimes manger, tu cuisines, enfin qu'est-ce
j'ai assez de mal à interpréter la façon dont je crée. Je prends le mot avec des pincettes parce que on se parle de recettes, mais ça fait quand même un peu appel à la création quand on cuisine et puis on devient un chef d'un restaurant. On renouvelle la carte assez régulièrement finalement ici. Mais le process, ce qui est sûr, c'est que je mange énormément chez les autres, pas dans un but forcément de m'inspirer, mais en tout cas ça en est la conséquence, mais parce que j'aime ça. Donc dès que je peux, je me fais des tables, je mange chez les copains, on se fait des bouffes entre potes. Quand on fait pas des bouffes entre potes, on organise des festins des chefs au festival, des pop-up ou des événements à droite à gauche. Donc évidemment, on s'abreuve de ça comme des lectures. Je me dis pas, ah ça, c'est génial, je veux le refaire. Mais voilà, c'est des choses qui petit à petit s'inscrivent et qui te reviennent. Et puis après, en fait, je me guide beaucoup. Mais je pense que la plupart des chefs font ça aujourd'hui. C'est un peu bateau de dire, mais de la saisonnalité. Et du coup, ben, je regarde un peu ce qu'il y a en ce moment. Maintenant, on a la chance d'avoir des fournisseurs qui sont très pointus et qui ont vraiment des... sans arrêt des produits notamment sur les légumes, les fruits, les aromatiques hyper à la pointe et d'une qualité incroyable. Et donc bah en fonction des mercuriales je me dis ok, bah ça avec ça avec ça, et puis ça tombe bien, je viens de recevoir un thon de 23 kilos, donc bah je vais décliner mon thon en plusieurs recettes. Et puis une fois que le thon c'est fini, bah je reçois une carcasse d'agneau, donc on va travailler plus sur l'agneau avec les légumes qui se composent en face. Et je suis dans une cuisine, en tout cas dans une création dite d'assemblage, que je plug la stracciatella avec les haricots, le boudin avec la sauce coréenne, et le lendemain.
Le lendemain, tu peux tout rechanger.
Ouais, voilà, c'est... les choses évoluent comme ça petit à petit.
Ça,
j'ai beaucoup de mal à
intuitif.
Les mettre sur papier, donc c'est très intuitif, ouais. Parce que je ne suis pas du tout...
T'es pas un chef de l'écrit ?
Non, alors j'écris beaucoup, mais je dessine mal. Mais en tout cas, j'écris peu les recettes à l'avance. Quand je te disais au début de l'interview que ma cam, c'est le live, J'aime aussi ce truc de l'instantanéité et j'ai un peu besoin, je crois, de cette pression et de cette adrénaline de du moment.
Mince. Pour créer. C'est le service. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire?
Ouais. Voilà. Bon, tu crées pas forcément au service, mais en même temps, la réalité, c'est qu'effectivement, on écrit le menu et la carte 15 minutes généralement avant que les clients rentrent dans ce putain de bouclard et c'est toujours un moment un peu. Thomas, mon associé qui écrit la carte, me regarde toujours avec des grands yeux en mode c'est l'heure du créatif en se foutant de ma gueule. Mais ouais, c'est ce moment-là où effectivement t'as passé la journée à cuisiner, préparer des trucs. Dans ma tête, j'ai un peu une trame, je sais à peu près qui va aller avec quoi, mais c'est ce dernier moment où tout peut basculer.
Tout peut changer.
Enfin, tout peut changer. J'exagère un peu, mais en tout cas, c'est ce moment-là où les recettes deviennent définitives. Et puis après, voilà, dans une vie de cuisinier. Il y a des moments où tout d'un coup une recette tu vois prend du sens, où t'as l'impression qu'elle est aboutie. Ça prend quand même vraiment du temps. C'est assez rare d'être satisfait complètement d'une recette et de se dire ok, ce plat là est abouti.
Tu refais des choses justement.
Mais
oui,
clairement il y a des récurrences. Ouais. Il y a évidemment
parce que,
des récurrences.
Comme ça, t'as besoin effectivement ouais. d'aboutir et de
Je reparle de ce boudin noir, mais c'est vrai ouais. que c'est un des premiers trucs auquel j'ai été confronté. Mon premier poste de chef, c'était dans un restaurant qui s'appelait le Mouchou, qui était un restaurant justement avec une dominante un peu basque sud-ouest.
Goncourt.
Ouais. C'était.
C'est là où il y a Marchon.
C'est
aujourd'hui.
Voilà. C'est effectivement maintenant c'est devenu. Enfin, ça a été repris par Alexandre Marchon. Bon, il y a eu d'ailleurs deux adresses entre temps, mais mon premier poste de chef c'était là-bas, et donc moi je revenais justement avec ma petite mallette là de cuisine japonaise, les patrons c'était un peu des basque-coïs, des mecs du sud-ouest et en plus j'ai quand même moi fait ce stage de 6 mois aussi chez Jean Cousseau, Jean-Jacques Cousseau, Relais de la Poste, Majesque, Les Landes, donc tu vois j'avais compris ce que c'était cette cuisine là et je l'appréciais d'ailleurs. Et donc c'est le moment où j'ai commencé un peu à se faire où les fils se sont touchés quoi un peu pour la première fois entre guillemets. Et donc une des premières recettes notamment c'était le boudin noir que j'ai un peu foutu à toutes les sauces à l'époque et je m'étais mis à faire une croquette d'ailleurs probablement inspiré de quelqu'un d'autre qui faisait déjà une croquette de boudin noir j'imagine je sais plus qui mais ça m'a un peu resté la friture bien grassouée et vraiment officiellement généreuse avec un boudin noir un peu particulier qui est un boudin noir avec de la mâche, de la chair, de la viande, et donc qui est beaucoup moins sanguinolent, qui ressemblerait un peu à un bourguignon, un peu effiloché, tu vois. Et donc, c'est un truc qui m'est resté au fil de ces 8-10 ans de cuisine, que j'ai interprété sous 1000 façons, avec 1000 sauces différentes, en améliorant 17 fois la façon
toujours.
Dont je pouvais le paner, tu vois, même s'il n'y a pas 1000 secrets, mais tu vois, avec une petite épice, ouais. de la bonne chapelure.
Ouais, tu
cherches
toujours
et puis un jour, tu te mets à cuisiner avec du pain au levain dans ton restaurant, et puis du coup, bah, la chapelure du pain au levain, elle est évidemment bien meilleure que quand tu fais de la chapelure.
De baguette blanche.
Ouais, ou même vulgairement de pain ouais. de Miharis, quoi. Enfin, tu vois, on commence par là, quoi, parfois. Et bon,
ouais,
c'est une recette qui est toujours ici. Alors là, on l'a enlevée de la carte il y a quelques mois parce que justement, on était arrivé à l'overdose, ce qui m'arrive assez régulièrement de recettes et donc je les évacue pour un certain temps.
Elle pourra revenir.
Le temps qu'on apprenne à se reséduire, quoi. Mais ouais, c'est un truc qui revient, quoi. Voilà, il y a évidemment. Plat signature, c'est toujours un peu pompeux, je trouve, comme expression, mais en tout cas, il y a des classiques, on va dire. Et puis des choses qui sont rassurantes pour nous, des trucs qu'on sait que voilà, quand t'es un peu en panne d'inspiration ou
ouais. bah, t'as moins envie, je pense qu'il y a des jours.
Ouais,
enfin, je sais pas, c'est un truc aussi.
Après,
de...
c'est pas forcément négatif de
pas
faire venir les classiques,
mais
c'est juste
ouais.
Voilà quoi, c'est un.
Bah, tu peux pas être toujours.
C'est une
toujours,
base, quoi. C'est
tu
une
peux
base
pas être,
solide, on va dire.
Tu peux pas être toujours au top de ta forme, de ton inspiration, de donc c'est bien aussi d'avoir des choses sur lesquelles.
Ouais, et encore une fois, c'est pas vraiment. Corrélé au top de l'inspiration ou au moment de creux, c'est plus ouais, c'est des envies voilà, là par exemple elle commence à me manquer, tu vois cette recette ça fait longtemps et puis il y a 2-3 clients aussi que tu vois qui
la réclament
et, et donc elle risque de revenir mais ouais c'est bien d'avoir une routine aussi c'est important je trouve, on peut pas toujours tout remettre en question, c'est trop compliqué effectivement, faut y aller petit à petit quoi.
Puis ça reste un endroit assez festif où tu viens effectivement bien manger, mais je pense que t'as aussi quelque chose de rassurant, de tu vois t'es pas forcément, c'est pas péjoratif, hein, mais dans la décortication de ton assiette, tu viens aussi kiffer le moment. Je trouve que tu vois, des fois, c'est un peu... ouais, des fois, t'as juste envie de manger, de te régaler et de pas,
ouais,
pas
ouais,
poser
non,
de
c'est
questions.
Sûr, c'est
et
sûr.
Je pense que quant aux baguettes aussi, on est aussi dans un endroit de kiff.
On est dans un endroit de kiff. On fait en sorte, en tout cas, que les gens vraiment passent un bête de moment ici. Et c'est vrai que j'essaye aussi, moi, petit à petit, de rendre ma cuisine plus lisible et peut-être plus simple. Et j'ai un peu ce mantra, j'en ai regardé quelques-uns de Ferrandi, justement, de nos chefs, là, les meilleurs ouvriers de France, qui avaient toujours plein de leçons à nous donner et plein de...
Alors, quel est ton mantra du moment?
Non, mais c'était cuisine simple, mais pas simpliste, tu vois. Et ils avaient toujours ce truc de nous dire, les gars, arrêtez de vouloir faire des tonnes dans vos assiettes avec des chips, des trucs. En fait, aller à l'essentiel, c'est genre le goût. Trois textures, même dans les couleurs et dans les produits, pas trop en mettre dans l'assiette. Alors je dis ça et parfois aussi il y a des assiettes où il y a 15 éléments différents, mais en fait il y a deux trucs très majeurs dedans. Et par exemple le takoyaki, c'est une assiette qui pourrait paraître assez complexe parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients, mais au final en fait la recette finalisée est assez simple, quoi. Et en fait c'est une grosse boulette bien moelleuse que tu trempes dans une mayo avec des herbes aromatiques et du poulpe, quoi. Et c'est hyper agressif. Et puis on est dans ce truc aussi de partage où on est quand même dans des assiettes tapas. Voilà, à partager, c'est vraiment l'explication aussi qu'on donne directement aux gens quand ils arrivent. Prenez-vous pas une assiette pour vous, il n'y a pas d'entrée plat dessert. Donc il faut que ça soit assez simple aussi à manger, convivial, quoi, tout simplement.
Est-ce que tu penses avoir trouvé ton style aujourd'hui ?
Alors en tout cas, j'ai trouvé mon style du moment, ça c'est sûr, mais j'imagine que ça s'écrit éternellement, quoi. Donc il y a quelques années, c'est sûr qu'en tout cas, je savais pas du tout ce que je faisais. Je pense que ça va faire 3 ou 4 ans que vraiment j'ai l'impression de comprendre ma cuisine et d'avoir un peu une trame, effectivement. Mais c'est toujours en construction, quoi. Donc oui, mais to be continued, quoi.
On a un petit questionnaire pour faire une petite pause, tu vois. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, la relève ?
La relève, alors c'est la transmission, mais c'est l'essentiel, je pense, de mon métier. Depuis que je l'ai commencé avec Animal et encore plus aujourd'hui, c'est-à-dire arriver à transmettre très vite à des gens, comme on me l'a transmis à moi, la passion, les compétences, le savoir-faire, pour que en fait le game s'épuise pas, quoi, et puis qu'on puisse continuer à construire. Là, il y a Yann qui est...
Coucou Yann.
Fraîchement vient de finir son stage, qui était en reconversion, qui avant était plutôt... tu m'arrêtes si je dis des conneries, mais recruteur, chasseur de tête dans le digital. Augustine qui était là juste avant, qui était en apprentissage chez Ferrandi, qui vient de finir son apprentissage chez nous et pareil, qui va être embauché. Yann aussi qui commence à travailler chez nous du coup officiellement en tant que salarié. J'ai toujours eu des stagiaires, des apprentis. Moi, j'ai fait ma formation comme ça. Et la relève, c'est la transmission. Et sans ça, t'es mort, quoi. C'est un métier qui est trop épuisant et où t'as trop besoin d'avoir une synergie d'équipe pour ne pas transmettre, déléguer et préparer la suite. Et la suite, c'est la relève.
Le chef ou la chef montante à suivre ?
Waouh, il y en a un paquet, mais puisqu'il faut de name dropper, je vais dire Justine Pruvot, qui a ce parcours atypique qu'on trouve de plus en plus aujourd'hui dans la restauration, de gens qui ont déjà eu un ou plusieurs métiers avant, qui ont une assez grande ouverture sur la vie professionnelle, une grosse appétence artistique et une vraie vision artistique et productive des choses, puisque la cuisine c'est pas juste la popote, quoi. Et voilà, elle me touche beaucoup humainement et puis culinairement, il y a vraiment des petites épiphanies à venir, je pense. Alors, elle fait partie des chefs qu'on a invités à la Douve Blanche. Elle cuisinait en quatre mains avec Louis Sandra du Clown Bar. Elle, du coup, elle est freelance. En ce moment, elle fait d'ailleurs un peu plus de prod que de cuisine. Mais c'est vrai que il y a beaucoup d'émotions, je trouve, dans ce qu'elle fait, ce qu'elle cuisine. En tout cas, moi, ça me touche beaucoup et je pense que c'est quelqu'un à suivre. Ouais.
Ton nouveau kiff culinaire ?
Mon nouveau kiff culinaire ? Alors, je travaille, c'est pas complètement un nouveau kiff, mais en ce moment, je suis un peu obsédé par les œufs mayo. J'aimerais présenter mon œuf mayo au championnat du monde de l'œuf mayo. Donc c'est un kiff et un peu une obsession à la fois. L'œuf mayo parfait, tu vois.
Je vois. Ton livre de recettes du moment.
Alors je lis pas de livre de recettes. Voilà.
Ah bon.
Scoop. Spoil.
C'est vrai que t'en as dans ta bibliothèque.
J'en ai pourtant un
tu
paquet.
Tu as le guide de la fermentation du Noma.
En fait, je l'ai. Ouais, alors ça c'est à Thomas et on s'en sert. Enfin, il s'en sert du coup beaucoup plus côté bar que côté cuisine.
Tu vois, je vois que t'es la cuisine de référence.
Ouais,
cet excellent livre de cuisine
cas, voilà,
que j'adore.
Voilà. Alors le Mincent Morel, on l'appelle dans le milieu. et c'est clairement le premier livre de cuisine que t'achètes quand tu fais un CAP et que tu comprends rien et que tu débutes Ferrandi à 20 piges. Et par contre, celui-là, s'il y en avait un que je devais citer, il m'a suivi toute ma carrière. La couverture, tu vois, est
un peu arrachée.
Et a clairement subi quelques années de cuisine. J'ai dû en offrir 2-3 aussi déjà à des copains cuisiniers. Le livre de référence, quoi, tout est dit. Hein, mais, mais non, mais il y a vraiment de bonnes bases. Et c'est un truc un peu rassurant parce qu'effectivement, tu commences par là. Et c'est un livre qui est assez indéchiffrable au début, que tu comprends pas. Il y a des fiches techniques, des pesées, toutes les recettes un peu classiques.
Mais moi, je vais chercher les recettes classiques dedans.
Mais finalement, tout tourne beaucoup autour de ça. Une fois que tu as compris les bases, après, un peu tout est possible, entre guillemets. Quoi. Et, une sauce émulsionnée instable, comme on l'appelle dans le Mincent, on peut faire toute une variété de sauces différentes avec des saveurs différentes, des couleurs différentes, des textures différentes. Donc, c'est effectivement, si on doit en retenir un, c'est ça. Après, parce que je suis pas complètement non plus fermé. Le dernier truc que j'ai dû lire, c'était Pimpin, le petit fanzine autour du pain de notre copain Thomas Runeberg, qui est pas trop long et qui est suffisamment bien imagé et ludique pour des mecs comme moi qui sont incapables de lire page après page les bouquins et de rester concentré sur une lecture. Donc c'est vrai que les bouquins de cuisine, j'ai plus tendance à
les feuilleter,
à passer un peu dessus. Ouais. Je feuillete, j'y repasse 2-3 fois, je regarde les photos, je lis en travers, mais
oui, mais
je suis pas
c'est
très
aussi tu sais, c'est aussi comme ça que ça te donne des inspirations.
Ouais, mais je suis plus livre à ciel ouvert, quoi. C'est table de restaurant, tu vois, ça m'inspire plus. Je lis beaucoup plus dans une assiette que dans un livre.
Une technique de cuisine découverte récemment.
La fumaison. Alors je connaissais la technique depuis longtemps. Je veux dire, c'est pas particulièrement découverte, mais la maîtriser. Voilà, ça c'est un truc beaucoup plus récent. Puis je me suis déjà, parce que ça fait quelques années que je cuisine avec un barbecue, et donc dans la cuisson au barbecue, il y a déjà l'esprit de la fumaison. Mais maintenant, je me suis acheté plus récemment différents fumoirs, et puis j'ai compris aussi les travails de la sûre, les travails des températures, les pré-cuissons et les traitements qu'on peut donner à un produit avant de le fumer. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce travail de la flamme et de la fumée. Et ouais, je commence à peine à découvrir tout le potentiel qu'il y a autour de ça, même si finalement je cuisine depuis quelques années sur un barbecue japonais, mais c'est sans fin.
Un nouveau compte Insta que tu veux nous faire découvrir ?
Qu'est-ce que je suis en ce moment ? Peut-être Frugal Studio. Julie Bruguet qui est derrière notamment, et notre amie Anna qui sont deux designeuses qui touchent beaucoup à la matière et notamment à la céramique et qui ont présenté l'année dernière à la Villa Noailles tout un travail autour du chanvre. Et un travail sur le matériau dans le mobilier, dans la scénographie, dans l'assiette, et qui font des très belles choses de leurs mains, et qui là sont en train de présenter aussi un nouveau format des nanas très très créatives et très inspirantes. On a des assiettes à elles d'ailleurs ici, enfin de Julie en particulier, qui est la spécialiste céramique des deux. Voilà, Frugal Studio.
Noté. On va reprendre. Qu'est-ce que ça représente pour toi la cuisine aujourd'hui ?
Un engagement extrême. C'est devenu un métier beaucoup plus global que ce que je l'imaginais avant et que je le concevais. C'est un vrai médium pour moi de partage, de connexion avec les gens. On se parlait tout à l'heure la relève de transmission évidemment. Moi j'en ai construit tout un univers autour avec mes associés, avec le restaurant, le festival, avec les pop-up qu'on organise. En fait c'est un univers pour moi maintenant la cuisine, plus que juste un métier à part entière, et le fait d'avoir un couteau dans la main. Et ça me plaît beaucoup, c'est un métier vraiment avec de multiples facettes, on va dire, quoi.
Oui, où t'es aujourd'hui, t'es chef, mais t'es aussi DA de tout un. Enfin, quand t'es chef, ouais, de ton propre, ouais, établissement, t'es pas que chef. Tu parlais de production aussi tout à l'heure, de toutes ces choses qui sont induites.
Bah, parce que nous, en plus, on a cette appétence-là et ce luxe de pouvoir. Produire des choses à côté du restaurant, mais déjà effectivement ne serait-ce qu'en étant chef d'un restaurant, effectivement ça demande quand même une vision assez complète. Enfin nous on fait un sourcing méga sérieux sur la vaisselle, sur la façon dont on sert les choses. C'est vraiment une œuvre globale, quoi, quand ça marche.
Enfin, le fait d'avoir choisi de ce côté live aussi, de l'exprimer en tout cas dans le restaurant, d'avoir donc un comptoir partout, des tables hautes, le fait d'avoir choisi tout ça aussi, ça veut dire quelque chose, c'est pas anodin.
Ouais, en fait, c'est un métier qui peut être, en tout cas dans l'imaginaire, c'est un métier qui peut être justement un peu isolant et qui est très contraignant, et t'es un peu solo dans ta cuisine, dans ta cave. Et nous, on est complètement revenu de ça et on essaie de rendre de transformer les contraintes en avantages, entre guillemets. En fait, c'est tellement plus cool de cuisiner dans une cuisine ouverte où les clients ils sont en face de toi, de pouvoir leur servir, puisque pour la partie, tu vois, du comptoir en cuisine, on sert les gens directement de main à main, les clients arrivent, ils nous posent les questions, à nous les cuisiniers, tu vois, il y a une énergie qui est vraiment très différente. Et puis à côté t'as les scuds qui tournent sur les platines, donc en plus tu bosses en musique, je veux dire, tout le monde le fait, mais entre avoir effectivement son enceinte et, tu vois, genre et balancer son son,
ouais,
et
réto,
gérer un peu son ambiance, ouais. Il y a vraiment ce truc de promiscuité qui crée l'enjaille, l'émulsion, qui moi me fait vibrer, et puis qui est un peu notre leitmotiv et tout avec nos associés, quoi.
Panto Baguette, est-ce que c'était pas l'aboutissement, t'es jeune encore, mais l'aboutissement quand même de quelques années, de ces dernières années.
C'est un aboutissement parce qu'on a été quand même principalement nomade avec Animal depuis la création. On a fait pas mal de spots dans Paris, beaucoup de festivals, d'événements en extérieur. On se retrouve sur aussi des festivals qu'on organise et produit pas forcément, mais qui nous invitent, type We Love Green, etc. À côté de ça, on a toujours fait un petit peu de traiteur. Aujourd'hui, maintenant, c'est bien fédéré et organisé autour de notre
agence qui s'appelle Staff 1000, mais on n'avait jamais eu de pied-à-terre, entre guillemets, un endroit où tu te sens chez toi, quoi. Et évidemment, quand on a lancé ça il y a 8 ans, on s'était dit un jour on aura notre lieu. Alors on l'avait imaginé un peu autrement, même si la dynamique était toujours la même, risque de me répéter, mais on imaginait un lieu, voilà, où les gens puissent danser, bien manger, bien boire, faire la fête, mais aussi s'asseoir à table. Les années ont passé, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'argent pour ça. On a décidé d'ouvrir alors que le Covid allait nous tomber dessus 6 mois plus tard. Donc quand on a commencé enfin nos recherches de restaurants, qu'on avait mis un peu de côté, qu'on avait l'XP suffisante et qu'on avait acté ensemble qu'on allait se settle dans un endroit, le Covid est arrivé. On a acheté pendant le Covid.
Vous avez ouvert pendant le
Covid.
Vous avez ouvert pendant la fermeture des réseaux.
On avait un motto qu'on avait un peu affiché partout. Le seul restaurant qui ouvre quand tout le monde ferme, quoi. Voilà. Ce qui était un peu réaliste à l'époque. Bon, il y en avait eu 2-3 autres avec nous, mais à l'échelle et à la vitesse où ça ouvre dans Paname, c'est vrai qu'on était clairement des survivants, quoi. Et ça nous a fait beaucoup de bien à nous. D'y croire et d'aller au bout de ce truc, quand tu dis aboutissement, en tout cas de se dire ok, on va pas lâcher l'affaire, ça fait 8 ans qu'on se bat pour ça, on va l'avoir cet endroit, et aussi un renouveau complet, quoi. C'est à dire que tu vois, quand tu parlais de livres, on a fermé un tome et on en a rouvert un autre. Aujourd'hui on est en train de travailler sur notre deuxième ouverture. On a mis les premiers coups de masse ce matin. Ça nous a redonné un vrai élan aussi, et puis ça a permis de sanctuariser un peu ce qu'on avait construit ces dernières années dans un endroit où on sait qu'on se fera pas déloger, où la résidence s'arrête pas au bout de 6 mois. Ça nous empêche pas de faire des choses ailleurs, mais voilà.
Vous avez votre camp de base.
On a le camp de base, ouais.
Ça
la maison
dire,
mère.
Ça veut dire quoi, Panto Baguette?
Alors c'est vraiment un mot à la con. Ouais, c'est une mauvaise blague.
Une mauvaise blague.
C'est clairement une mauvaise blague, mais comme on est une bande. Alors à la base, on était 4 associés, 4 mecs. Maintenant, on est 7, 7 mecs. On est tous un peu cons. Et on a évidemment des styles et des goûts très différents, mais on est copains. Et on galérait de fou à trouver un nom, à se mettre d'accord. Moi, je savais que j'allais être chef ici. Ça allait être mon restaurant plus que quiconque dans la bande, avec Thomas aussi, qui était lui derrière le bar, puisqu'on est tous les deux dans l'opérationnel du restaurant. Puis voilà, j'avais vraiment des idées très ancrées sur à quoi devait ressembler mon restaurant, le nom, tout ça, le style. Et on n'arrivait pas à se mettre d'accord, quoi. Et puis un jour, y en a un qui arrive. On était tous un peu bourrés autour d'une table. Il dit, oh les gars, j'ai trouvé un truc de fou et tout. Panto Baguette. Et on explose tous de rire. De rire jaune. Il nous explique un peu. Il fait, j'étais dans ma douche et puis j'ai marqué nos 5 prénoms Paul, Antonin, Thomas, Bart et puis Gauthier, qu'on appelle Get, son nom de scène, et puis Get, Panto Baguette. Et puis on est là genre waouh, c'est le pire nom qu'on puisse se trouver. Moi je jure instantanément que jamais de la vie on ouvrira un restaurant avec ce nom, que je préfère me faire harakiri, quoi, plutôt que finir avec Panto Baguette en nom de d'enseigne. Et puis voilà, quoi, les mauvaises blagues, c'est les running jokes, en fait. On, à force de se dire putain, si on trouve pas mieux que ça, on va finir avec Panto Baguette, on parlait un peu aux copains qui disaient ouais, mais c'est marrant, ça sonne bien, c'est joyeux, c'est concon, mais c'est un peu comme vous, et puis c'est surtout jamais entendu, en fait. Et c'est vrai qu'il y avait ce truc, petit à petit, en ruminant, je me disais c'est vrai que au moins ça sera unique, on pourra pas nous reprocher d'avoir voulu se mettre dans la tendance avec un restaurant qui s'appellerait, et désolé pour tous les copains qui ont appelé leur restaurant comme ça, mais mieux, bon, beau, flamme, enfin tu vois, genre c'est des trucs très très courts, très catchy a priori, qui nous correspondait peut-être pas, en fait. C'est con, mais après en faisant le taf que t'es censé faire quand tu ouvres un resto, genre chercher un peu le référencement, te dire ok, où est-ce que je me place dans le game, Panto Baguette, c'était une page vierge, et ça c'est cool, les pages vierges. On était content d'écrire un peu notre histoire from scratch, et de se dire ok, en tout cas personne n'est passé par là,
Et écoute, ça marche. Je crois que ce nom nous a porté chance.
Tu l'aimes maintenant dirait.
Ouais, clairement. Ouais.
Bon, chef Girard.
Chef Girard. Ouais.
Qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Qu'est-ce que tu vas nous préparer de bon?
Du coup, je me suis un peu spoilé tout à l'heure, mais
le meilleur off mayo.
On va se faire un œuf ajitsuke qui est avec les takoyaki, la deuxième recette.
Signature. Classique.
De Panto Baguette. C'est un œuf mayo, donc sans prétention. Je pense que vraiment, là-dessus, personne pourrait dire que, genre, il a créé l'œuf mayo. Mais voilà, chacun son œuf mayo. Je trouve que c'est, tu vois, c'est un truc.
Mais c'est cool.
Dans le monde de la restauration et la bistronomie parisienne. Tout le monde a un peu à son œuf mayo et finalement tu
mais
vois,
t'as envie de le prendre, tu t'en lasses pas.
C'est un peu ta carte d'identité quoi, l'œuf mayo.
Oui,
puis c'est drôle, c'est un truc que, voilà, c'est sans prétention. On peut, mais en tout cas nous ici on essaie de travailler et puis il a quand même beaucoup évolué avec les années. Là je pense qu'on est arrivé à un truc un peu cool. En tout cas, les gens aiment bien, donc c'est déjà l'essentiel. Donc c'est un œuf travaillé à la japonaise, surprise, mais qu'on fait moller, ensuite infusé dans un soyu, enfin une sorte de soyu, mais mirin, saké, sauce soja, vinaigre de riz, 48 heures. Et donc voilà, l'œuf s'imprègne, il est encore bien coulant quand on les calme. Et ensuite, donc on vient l'imprégner dans ce soyu. Et en fait, il a une espèce de triple cuisson avec l'alcool du saké et du mirin, l'acidité du vinaigre de riz et le sel du soja, de la sauce soja. Et donc en fait, on vient finir la cuisson par ces trois procédés et donc complexifier un peu la texture à la fin, la couleur et évidemment le goût de l'œuf. Bon, la base de cette recette, c'est d'avoir des bêtes d'œufs. Hein. Faut pas oublier le goût est dans le produit, quoi. Mais ensuite, évidemment, une mayo, parce qu'un œuf mayo sans ça, c'est pas un œuf mayo. Et donc là, on est sur une mayonnaise au wasabi, une mayonnaise blanche. Donc, on fait tout depuis que j'ai découvert ce procédé, thanks to Aldwin Beats, mais voilà, la mayonnaise se monte avec les blancs d'œufs également et pas seulement avec les jaunes, et elle foisonne vraiment bien, elle a une texture différente, un goût différent, elle est un tout petit peu moins riche aussi, et donc ici on fait toutes nos mayonnaises blanches maintenant, et pareil, toujours avec cette petite acidité et ce gras, cette aromatique du mirin et du vinaigre de riz. Et puis ensuite, par-dessus ça, on vient ajouter 2-3 toppings et condiments en essayant de pas trop en faire, mais qui viennent un peu complexifier cet œuf aux aromatiques assez classiques de la cuisine japonaise. Donc le wasabi, le soja, le vinaigre de riz, avec des œufs de truite de banca pour apporter l'œuf sur l'œuf, quoi. J'aime bien un peu cette dimension. Avec du furikake, qui est un condiment vraiment très classique de la cuisine japonaise, mais que j'affectionne énormément. Il y a autant de furikake, je pense, que de restaurants au Japon, puisque c'est un truc très personnel finalement. C'est un assemblage de petits condiments secs. Donc, en l'occurrence, celui-là est aussi au wasabi séché, avec du nori séché, un peu de riz soufflé, un sésame torréfié et une huile verte. De basilic en l'occurrence en ce moment, de persil une autre partie de l'année quand on n'a plus de basilic, qui vient et aromatiser et aussi donner une colorimétrie un peu, et puis aussi c'est une huile d'olive, l'huile verte, donc ça vient apporter un peu de rondeur aussi sur un plat qui est quand même très simple. Voilà.
Bon, bah tu vas nous montrer.
Je vais vous montrer ça, ouais.
Allez, merci Antonin.
Vous venez d'écouter l'interview d'Antonin Girard. Pour goûter ce qu'il a dans la poêle, rendez-vous chez Panto Baguette, rue Eugène Sud, dans le 18e arrondissement de Paris. Vous pouvez retrouver toutes les infos dans la description de l'épisode et évidemment le suivre sur Instagram, sur son compte Antonours ou sur celui du restaurant Panto Baguette. Vous pouvez réécouter les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site agence-larelève.com et suivre à poil podcast et agence_larelève sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. On se retrouve en septembre pour un nouvel épisode d'À Poil.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.